Partie 1, chapitre 2, doctrine des pulsions. La puissance du ça exprime le véritable dessein vital chez l'être individuel. Ce dessein consiste à satisfaire à ses besoins innés, celui de se conserver en vie et de se protéger des dangers par l'angoisse ne peut être attribué au ça. C'est là la tâche du moi, qui doit aussi aller trouver, en prenant en compte le monde extérieur, le mode de satisfaction qui soit le plus favorable et le moins dangereux. Il se peut que le surmoi fasse valoir de nouveaux besoins, mais sa fonction principale reste la restriction des satisfactions. Les forces que nous supposons derrière les tensions de besoin du ça, nous les appelons pulsions. Elles représentent les exigences corporelles posées à la vie d'âme. Bien qu'elles soient la cause dernière de toute activité, elles sont de nature conservatrice. De tout état qu'un être a atteint, procède une tendance à restaurer cet état dès qu'il a été abandonné. On peut donc différencier un nombre indéterminé de pulsions, ce qu'on fait d'ailleurs habituellement. Pour nous, ce qui est significatif, c'est de savoir s'il n'est pas possible de ramener cette multitude de pulsions à un petit nombre de pulsions fondamentales. Nous avons appris que les pulsions peuvent modifier leur but par déplacement, qu'elles peuvent aussi se remplacer les unes les autres, l'énergie d'une pulsion passant à l'autre. Ce dernier processus est encore loin d'être bien compris. Après avoir longtemps hésité et oscillé, nous nous sommes résolus à supposer seulement deux pulsions fondamentales, l'éros et la pulsion de destruction. L'opposition entre pulsion d'autoconservation et pulsion de conservation de l'espèce, ainsi que l'autre opposition entre amour du moi et amour d'objet, se situe encore à l'intérieur de l'éros. Le but de la première est d'instaurer des unités de plus en plus grandes et ainsi de conserver, donc, la liaison. Le but de l'autre, au contraire, est de dissoudre des corrélations et ainsi de détruire les choses. Dans le cas de la pulsion de destruction, nous pouvons penser que son but dernier semble être de faire passer le vivant dans l'état inorganique. C'est pourquoi nous l'appelons aussi pulsion de mort. Si nous supposons que le vivant est venu après ce qui est sans vie et qu'il est né de lui, la pulsion de mort se conforme à la formule mentionnée, à savoir qu'une pulsion tend à faire retour à un état antérieur. Pour l'éros, ou pulsion d'amour, nous ne pouvons appliquer la même formule. Ce serait présupposer que la substance vivante a été un jour une unité qui a été ensuite morcelée et qui aspire désormais à se réunir de nouveau. Dans les fonctions biologiques, les deux pulsions fondamentales ont une action antagoniste ou se combinent entre elles. L'acte de manger est ainsi une destruction de l'objet ayant pour but final l'incorporation. L'acte sexuel, une agression ayant pour visée l'union la plus intime. Cette action conjointe et antagoniste des deux pulsions fondamentales produit toute la bigarrure des phénomènes de vie. Par-delà le domaine du vivant, l'analogie de nos deux pulsions fondamentales conduit au couple d'opposés de l'attraction et de la répulsion qui dominent dans l'inorganique. Des modifications dans la proportion de mixtion des pulsions ont les conséquences les plus tangibles. Une adjonction plus forte d'agression sexuelle transforme l'amoureux en meurtrier lubrique. Un fort abaissement du facteur agressif le rend timide ou impuissant. Il ne saurait être question de restreindre l'une ou l'autre des pulsions fondamentales à l'une des provinces animiques. On doit forcément les rencontrer partout. nous nous représentons un état initial de la manière suivante. Toute l'énergie disponible de l'éros, que nous appellerons désormais libido, est présente dans le moi ça encore indifférencié et sert à neutraliser les penchants à la destruction simultanément présents. Pour désigner la pulsion de destruction, il nous manque un terme analogue à celui de libido. Plus tard, il nous devient relativement facile de suivre les destins de la libido dans le cas de la pulsion de destruction. Cela est plus difficile. Aussi longtemps que cette pulsion agit à l'intérieur en tant que pulsion de mort, elle demeure muette. Elle ne se montre à nous que lorsqu'elle est tournée vers l'extérieur en tant que pulsion de destruction. Que cela se passe ainsi, cela semble être une nécessité pour la conservation de l'individu. Le système musculaire est au service de cette dérivation. Avec l'instauration du surmoi, des montants considérables de la pulsion d'agression sont fixés à l'intérieur du moi et y agissent sur un mode autodestructeur. C'est l'un des dangers pour l'hygiène que court l'être humain sur la voie le menant au développement de la culture. Retenir l'agression est généralement malsain et a un effet pathogène de vexation. Une personne en proie à un accès de rage démontre souvent le passage de l'agression empêchée à l'autodestruction par le retournement de l'agression sur la personne propre. Lorsqu'elle s'arrache les cheveux, se martèle le visage avec les poings, là où elle aurait manifestement préféré réserver ce traitement à un autre. Une partie de l'autodestruction demeure à l'intérieur en toutes circonstances, jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à tuer l'individu. Peut-être seulement lorsque sa libido se trouve épuisée ou désavantageusement fixée. On peut donc présumer en général que l'individu meurt de ses conflits internes. L'espèce, au contraire, de son combat infructueux contre le monde extérieur, lorsque celui-ci s'est modifié de telle manière que les adaptations acquises par l'espèce ne suffisent pas. Il est difficile de dire quelque chose sur le comportement de la libido dans le « ça » et dans le « surmoi ». Tout ce que nous en savons se rapporte au « moi », dans lequel au départ tout le montant disponible de libido est emmagasiné. Nous nommons cet état le narcissisme primaire absolu. Il persiste jusqu'au moment où le moi commence à investir de libido les représentations d'objets, à transposer la libido narcissique en libido d'objets. Durant toute la vie, le moi reste le grand réservoir à partir duquel sont émis les investissements libidinaux sur les objets, et dans lequel ils sont de nouveau rentrés, comme le fait un corps protoplasmique avec ses pseudopodes. C'est seulement dans le plein état amoureux que le montant principal de la libido est transféré sur l'objet, celui-ci se mettant d'une certaine manière à la place du moi. Une caractéristique importante dans la vie est la mobilité de la libido, la facilité avec laquelle elle passe d'un objet à d'autres objets. À l'opposé de cela, il y a la fixation de la libido à des objets déterminés qui persiste souvent toute la vie durant. Il est indéniable que la libido a des sources somatiques, qu'elle afflue de divers organes et lieux du corps en direction du moi. On voit cela le plus clairement sur cette partie de la libido qui est qualifiée, d'après son but pulsionnel, d'excitation sexuelle. Les lieux du corps les plus éminents dont cette libido provient, on les distingue en leur donnant le nom de zones érogènes, mais à proprement parler, c'est tout le corps qui est une telle zone érogène. Le meilleur de ce que nous savons sur l'éros, donc sur son exposant, la libido, a été acquis par l'étude de la fonction sexuelle qui, d'après la conception ayant communément cours, même si cela n'est pas dans notre théorie, coïncide en effet avec l'éros. Nous avons pu nous faire une image de la manière dont la tendance sexuelle qui est destiné à influencer de façon décisive notre vie, se développe progressivement à partir des contributions successives des nombreuses pulsions partielles qui représentent des zones érogènes déterminées.